Chers auditeurs, bonjour. Je reprends ma phrase habituelle. Je suis ravie de vous retrouver, ce qui est on ne peut plus vrai. Ravie de vous présenter mon invité que vous connaissez. Je vous dirai simplement que c'est un ancien de Naval, qu'il a un rôle important à Renaissance catholique. Et là, hop, vous avez deviné, c'est Jean-Pierre Maugendre.
Merci de m'accueillir. Merci Anne, merci de m'accueillir. Bonjour à tous.
Alors Jean-Pierre, je vous ai présenté d'une manière un peu résumée, n'est-ce pas, très succincte. Dites-nous en plus sur vous, parce que on vous entend, on vous voit en plus à TV Liberté, aux Hommes en Noir. On entend vos conférences, on vous lit sur le site de Renaissance catholique. Mais parlez-nous un petit peu de vous, donnez-nous quelques éléments qui nous rendent familiers.
Que vous dire ? Je suis aux confins de deux traditions familiales. Une tradition familiale par mon père, qui était officier de marine, mais qui était issu d'un milieu très simple, puisque ses parents vendaient des chaussures à Redon.
Voilà. Ah, Redon, connais bien Redon.
Et donc là, on est dans la tradition catholique et breton toujours. Voilà, il a fait ses études chez les eudistes, puis chez les jésuites.
À Saint-Sauveur, de Redon.
À Saint-Sauveur, puis chez les jésuites à Saint-Charles, à Saint-Brieuc, avant d'intégrer l'école navale. Voilà, donc de ce côté-là, on est dans une tradition religieuse et nationale, à l'époque, largement partagée. Il restera fidèle à cette tradition, puisqu'il est abonné de Fondation d'Itinéraire. Voilà, Itinéraire, donc la revue de Jean Badiran, fondée en 1956. Voilà, donc j'ai coutume de dire parfois que j'ai appris à lire dans Itinéraire, puisque voilà, dès que j'ai eu l'âge un peu de m'intéresser à ces questions, 12, 13, 14, 15 ans, et ben je lisais Itinéraire, parce
et
que
Dieu
mon
sait
père
si c'était passionnant
lisait
et,
Itinéraire.
Et si c'était important,
c'était riche,
si c'était
voilà.
Donc
marquant. Là, on est sur une tradition familiale paternelle, et ma tradition familiale maternelle n'est pas du tout la même, parce que là, on est plutôt dans ce que on appelle la HSP, la Haute Société Protestante, puisque, en fait, ma mère est née en Bretagne, mais elle est, sa famille, à elle, est originaire de Montbéliard. En Franche-Comté, dans le sillage, dans l'environnement de la famille Peugeot. Voilà. Et en fait, l'événement historique est qu'après la guerre de 14, la famille Peugeot est venue en Bretagne et a lancé une station balnéaire qui est devenue la ville de Morgat. Voilà, donc Morgat, le grand hôtel, quand vous arrivez en descendant, voilà, c'est les Peugeot qui sont, et au sens étymologique du terme, des corrélégionnaires, puisque les Peugeot, c'est des familles protestantes, sont de luthériens. Et en fait, après la guerre de 14, quand ils sont arrivés, ils ont lancé la station de Morgat, ils sont venus avec des corrélégionnaires et qui, en fait, se sont répartis, ont fait construire, ont racheté un certain nombre d'hôtels sur la presqu'île de Crozon. Donc à Morgat, mais aussi à Camaret. Voilà.
Quel bel
endroit.
En
fait, mes grands-parents avaient un hôtel qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle l'Hôtel Moderne, sur le port de Camaret, voilà, après la guerre de 14. Voilà. Et donc là, on est dans une tradition protestante, très libérale, un milieu social assez élevé. Voilà. Donc moi, je suis le fruit de ces deux filiations. Avec un élément déterminant, à l'âge de 16 ans, donc je suis en lycée militaire à Brest, à l'époque ça s'appelait le collège naval, aujourd'hui ça s'appelle le lycée naval, et là je fais la connaissance d'un mouvement d'apostolat de jeunes qui s'appelle le mouvement de la jeunesse catholique de France, et qui en fait me permet... je dirais, de me réapproprier ma tradition nationale, religieuse, voilà, ben que mon père m'avait transmis en partie, mais pas totalement, parce que ben parce que il en avait pas trop les moyens. Alors je donne, c'est nous étions une famille voilà où les débats intellectuels ont toujours tenu de la place. Il y avait deux publications, voilà, quand j'ai 12, 13, 14 ans, il y a deux publications à la maison. Il y a Itinéraire pour mon père et il y a Le Nouvel Observateur pour ma mère. Voilà. Et donc moi, je lis les deux.
Mais enfin, il y en a un qui a gagné par rapport
alors,
à l'autre.
Alors, il semblerait que dans le temps, il y en ait un qui ait gagné sur l'autre.
Et c'est le bon. Alors Jean-Pierre, je vous reçois pour un petit livre qui s'appelle « La lecture en question » paru chez Via Romana. Petit livre par sa grosseur, mais livre très important. C'est une nouvelle petite collection, je crois, chez Via Romana.
Alors voilà, effectivement. Donc ça, c'est le deuxième livre d'une nouvelle collection. Alors, quelle est l'intuition de cette collection ? L'intuition de cette collection, donc avec Benoît Mancheron, c'est de dire qu'aujourd'hui, bah, les jeunes ont de plus en plus de mal à lire. Pourtant, c'est nécessaire et donc il faut mettre à leur disposition quelque chose qui ne soit pas trop long. Voilà, c'était
donc ça s'adresse aux jeunes.
Voilà, ça s'adresse essentiellement aux jeunes. C'est de petits formats, donc on peut mettre ça dans la poche, etc. Il est facile de se déplacer avec. Et puis la lecture, c'est une heure et demie. Voilà, donc là, on a publié deux numéros, donc un numéro, deux livres pour l'instant. Un livre précédent, donc qui était sur l'obéissance en question. Ce livre-ci sur la lecture en question. Et nous sommes en train de faire les corrections, les révisions, etc. sur un troisième volume qui s'appellera « La nouvelle droite en question ». Et nous sommes également sur un quatrième ouvrage. Donc là aussi, alors... La nouvelle droite en question, c'est moi qui en suis l'auteur. Et puis le quatrième, c'est pas moi, c'est ce que nous devons à la Grèce. Voilà, toujours sous un format, voilà, quelque chose qui se lit
en
une heure et demie, deux heures.
Qui a écrit ce que nous devons à la Grèce ? Alors, c'est secret ?
Non, ça apparaîtra sous son nom. C'est une jeune femme qui s'appelle Madeleine Villain.
Parfait. Très bien. Alors, comment en êtes-vous arrivé à traiter la lecture ? Je suppose... Bien sûr que vous êtes un grand lecteur.
Alors,
déjà, quand on lit Itinéraire à 15 ans, et en plus, vous vous souvenez, il y avait des notes de lecture qui donnaient envie d'aller découvrir les livres.
Et alors, donc, avec quelque chose d'original dans Itinéraire, et ça, je trouve que aussi, c'est la grande liberté d'esprit et de ton qui était celle de Jean Vadiran. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, sur un livre, vous avez une recension dans une revue et qui, d'une certaine manière, est la position officielle. C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais en fait, qui est la position de la revue sur le livre. Bien. Et Madiran, on le voit, il dit nous, c'est la grande liberté des enfants de Dieu. Donc, sur le même livre, on va accueillir plusieurs recensions qui permettront à chacun, avec son histoire personnelle, ses dadas personnels, il faut bien le dire, de porter un regard différent. Voilà, donc je trouve ça effectivement très, très enrichissant. Alors, l'histoire de ce livre, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est d'une part, pendant plusieurs années, dans le cadre de Renaissance catholique, dont vous avez parlé tout à l'heure, on a organisé des sessions pour les jeunes, les grands adolescents, et puis les jeunes en études supérieures. Et une des conférences, c'était « Pourquoi lire ?» Voilà, donc la trame d'origine, c'était ça. Ensuite, cette trame d'origine a été confortée dans le cadre d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire aux Journées Chouannes il y a 2 ans et demi maintenant, où je suis intervenu sur ce sujet, qui ensuite a été publié comme conférence dans la revue Lecture française. Et voilà, ça nous a donné un petit peu une trame, donc que j'ai enrichie de manière à aboutir aux documents dont nous traitons maintenant.
Alors, moi je dirais que, bien sûr, ça s'adresse aux jeunes, mais je conseille aux parents et aux grands-parents de s'en procurer des exemplaires et de les distribuer autour d'eux. Parce que ce ne sont pas forcément les jeunes. Eux, il faut les décider à lire. Mais pour les décider à lire, il faut qu'ils aient ce petit ouvrage dans les mains. il faut que quelqu'un leur mette dans les mains.
Alors, pour les décider à lire aussi, il faut commencer par leur montrer l'exemple.
Indéniablement. Indéniablement.
Voilà.
Oui.
Si je veux que mes enfants lisent, il faut que je lise. Bon, et donc, on a, dans ce petit livre, eu cette démarche. Donc, expliquer l'importance de la lecture. Et puis également, je crois, ça peut servir à des parents et à des grands-parents. On donne également à la fin, sur un certain nombre de sujets, on propose quelques livres en fonction de différents thèmes. Alors, d'une part, des livres un petit peu généraux qui s'adressent à des adultes. Et puis, on a également quelques pages uniquement consacrées à la littérature pour jeunesse.
Mmh.
Voilà, je crois que ça
fait... Excellente idée, vous donnez deux titres pour chaque tranche d'âge et c'est un début. En fait, les livres, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on en lit un qui mène à un autre, qui mène à trois autres... Et donc, on tire le fil et c'est comme ça qu'on découvre la littérature.
Alors, c'est pour ça le conseil que nous donnons pour commencer, quand les gens ont un peu de mal, n'en ont pas le goût, etc. La première question qu'il faut se poser vis-à-vis de mon interlocuteur que je cherche à faire lire, c'est qu'est-ce qui l'intéresse ?
Voilà.
Et à partir du moment où il a manifesté, partagé ses centres d'intérêt, eh bien, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait parce que le livre que je vais lui prêter ou que je vais lui conseiller sur ce sujet qui l'intéresse, même si la lecture en soi est un peu rébarbative, lui donnant un effort, est un peu difficile, le fait que le sujet l'intéresse doit pouvoir lui permettre de prendre de bonnes habitudes et puis après de pouvoir passer à des choses qui l'intéressent peut-être moins mais dont il a besoin.
Mmh. Je viens justement de discuter sur le chemin vers le studio avec un bouquiniste qui se trouve rue Molitor et qui est très intéressant et que je conseille aux Parisiens, et dont je conseille la boutique aux Parisiens. Et on parlait de ce sujet et il disait que quand des grands-parents viennent me voir en me disant « j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui ne lisent pas », je ne leur conseille pas de leur donner des classiques, il ne faut pas essayer de leur faire lire du Zola. Il faut essayer de voir ce qui les intéresse,
Zola,
comme vous le dites. Voilà.
Bon.
mais même Henri Bordeaux. Hein.
Oui, alors voilà, là vous faites dans la bonne presse.
avec un peu de malice, je dois dire. Mais ce bouquiniste disait, moi je leur conseille plutôt, pour des gens qui ont 15 ans, des récits d'aventure, des récits d'écrivains voyageurs. Et ça, en général, ça parle et ça accroche. Ou des récits de grands reporters qui parlent de leurs reportages, etc. Ça, c'est très vivant. Enfin bon, effectivement, à voir en fonction de l'enfant, de l'adolescent qu'on a en face de soi. Alors, je vais faire un peu de mauvais esprit, Jean-Pierre.
Allez-y.
Vous dites que la lecture est en crise.
Oui.
Et vous le prouvez, vous donnez des chiffres.
Oui.
Mais le monde a existé pendant des siècles et ne s'en portait pas plus mal avec des gens qui ne lisaient pas.
Alors, il y a deux éléments de réflexion que l'on peut livrer. Le premier élément de réflexion, c'est que si ces gens, pour un certain nombre, ne lisaient pas, ils mémorisaient.
Certes.
On le voit en particulier dans la civilisation grecque ou les civilisations
celtes.
La civilisation celte est une civilisation de la tradition orale. C'est-à-dire que contrairement au monde grec, dans lequel il y a beaucoup de choses écrites, qui d'ailleurs nous sont parvenus, le monde celte est un monde de la tradition orale.
Et donc,
résultat, il ne nous est pas parvenu grand-chose.
Voilà,
même s'il y avait sans doute des choses...
Des richesses
tout à
encore
fait,
plus grandes
tout
que
à
dans
fait.
Le monde grec.
Oh, ça,
si,
je
si,
sais
si.
Pas, je
mais
sais
c'est
pas.
Évident.
Voilà, donc ça, voilà, c'est un premier élément de différenciation, les gens mémorisés. Alors on voit ça d'ailleurs dans l'Iliade et l'Odyssée, donc qui sont des poèmes. Il y a des formules qui sont des formules récurrentes.
Mm-hmm.
C'est de manière à ce que la mémoire puisse se raccrocher et que l'on puisse mémoriser tout ça. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas, mais ils n'ont pas de mémoire. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement différent.
Donc tout est atrophié, oui.
Et donc, c'est atrophié. Et puis, je pense aussi, il y a... Alors, sauf si vous êtes Pic de la Mirandole, je veux dire, les facultés de mémorisation de chacun sont quand même limitées, alors que les facultés d'accumulation de documents écrits, elles ne le sont pas. C'est-à-dire, si tout passe par là... En tout cas, la dimension n'est pas la même. Alors, sauf si vous vous appelez Gustave Thibon, où vous apprenez des milliers, des dizaines de milliers de vers de Victor Hugo, voilà. Mais c'est quand même pas le cas commun. Donc, il a existé des civilisations qui n'étaient pas des civilisations de l'écrit, mais malheureusement, elles ne nous ont pas transmis grand-chose.
Alors, même à partir du moment où il y a eu des livres, est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, excusez-moi, qu'il y a eu des périodes où les lecteurs ont été si nombreux que ça? Il y a toujours eu un petit nombre de gens qui ont lu.
Oui, alors on le voit, dans la société romaine, on le voit aussi au Moyen-Âge, où en fait, à l'époque médiévale, le savoir se perpétue, en particulier dans les abbayes, par les clercs.
Oui, mais là, c'est parce que on n'a pas les... Peu de gens ont accès aux livres.
Oui, alors il y a un autre élément, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de... Et un certain nombre de gens font la comparaison aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Certains disent l'intelligence artificielle est à la vie intellectuelle ce qu'a été l'imprimerie de Gutenberg en son temps. C'est-à-dire que c'est par l'imprimerie... Donc, il a considérablement baissé le coût de production des documents écrits, qu'il y a eu une certaine forme de vulgarisation de l'écrit. Avant,
oui,
comme c'était très cher...
l'écrit ne remplaçait pas la pensée. Le risque de l'intelligence artificielle...
Oui, non, on est bien d'accord.
Donc voilà,
alors,
ça, c'est un autre sujet.
Alors, l'écrit ne remplaçait pas la pensée, n'empêche que il fallait, et l'expérience le montre, je dirais, un écrit pour orienter la pensée, pour l'aiguiser. Voilà, et c'est le développement, en passant par... Donc, Gutenberg, c'est la Renaissance, et il est incontestable que le développement littéraire qui est celui de la Renaissance, la Pléiade, c'est la redécouverte des auteurs antiques, que ce soit des auteurs latins ou que ce soit des auteurs grecs, qui sont mis à disposition dans des conditions matérielles qui avant étaient inconcevables.
Inconnues, voilà, bien sûr. Alors, je continue à faire du mauvais esprit. il se trouve que quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage, j'ai même travaillé à mi-temps dans une bibliothèque municipale à Paris. Je me souviens d'une dame qui venait chercher ses Barbara Cartland. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Alors, je
vaguement,
vois
très
noms,
vaguement.
Ouais, c'est tout.
Des romans américains sirupeux à souhait. Et elle venait en prendre... je ne sais pas moi, 4-5 par semaine. Et hop, elle les rapportait, elle les remplaçait. Jean-Pierre, ne vaut-il mieux pas ne pas lire plutôt que de lire ce genre de choses?
Ça dépend ce que vous faites à la place.
Ben, elle avait une petite fille, je me disais qu'elle aurait mieux fait de s'occuper de sa fille.
Alors on a exactement le même exemple, mais dans un autre domaine. Madiran, donc quand il a 16-17 ans, etc., il raconte qu'il allait à la bibliothèque municipale et que deux fois par semaine, il revenait avec 3-4 livres. Voilà, c'est-à-dire en gros, il devait lire, ça nous fait deux fois quasiment un livre par jour. Alors, est-ce qu'il vaut mieux lire des choses insignifiantes que pas lire du tout? J'en suis pas persuadé. D'abord parce que vous créez un habitus, et puis aussi, je le dis, ça dépend ce que vous faites à côté, quoi.
Oui, mais enfin, les Barbara Cartland, c'est « Je me souviens d'un titre ». Que mes collègues se sont fait une joie de m'offrir, mais qui ne doit plus figurer dans ma bibliothèque, l'irrésistible amant, vous voyez.
Oh, quel programme.
Non, je pense vraiment qu'il vaut mieux ne pas
lire.
C'est
du roman de gare.
Oui, et puis bas de gamme. Il peut y avoir des bons romans de gare,
ouais.
Mais bon, enfin bref, donc voilà. Alors, venons-en maintenant au sujet sérieux et traité de façon sérieuse, Jean-Pierre Maugendre. Quels avantages voyez-vous à la lecture ?
Alors, l'avantage de la lecture, je pense que le premier des avantages, c'est que, d'une certaine manière, par la lecture, j'accède à la mémoire de l'humanité. J'accède à la mémoire de l'humanité à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, eh bien, je peux lire les présocratiques, Socrate, Platon, dans le domaine philosophique. Je peux lire dans le domaine historique, on peut commencer avec Thucydide, etc. Et puis l'histoire de notre pays, je peux lire Joinville, voilà. Et puis d'autres historiens plus contemporains. Donc j'accède à la mémoire de l'humanité sur ce à quoi on réfléchit des personnes dont on peut penser raisonnablement qu'un nombre non négligeable était plus astucieuse que moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'elles ont pensé de ci, de ça, et de manière à me permettre de répondre aux questions que tout homme se pose sur sa destinée, sur le sens de sa vie, sur l'existence ou non d'une vie après la mort, sur les rapports entre la liberté et la grâce, la nature et la surnature. Voilà, avant moi, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, et qui ont apporté des réponses avec aussi cette immense question sur la place de la souffrance, la place du mal dans l'existence de chacun d'entre nous. Voilà, et bien il y a des gens qui ont réfléchi à ça avant moi. Je pense que je ne peux que m'enrichir à leur étude. Je crois que c'est Saint Bernard qui disait « Celui qui se fait son propre maître se fait le disciple d'un sot. » Celui qui se fait son propre maître se fait le disciple d'un sot. Eh bien, par la lecture, quelque part, je me mets dans la continuité, dans la filiation de ceux qui m'ont précédé avant. Alors, sur les grandes questions métaphysiques, mais également sur des choses plus concrètes. Dans le livre, au début, je ne sais pas si vous avez noté, je cite le général James Mattis. James Mattis, donc, ça a été un des nombreux secrétaires d'État à la défense du président Trump lors de son premier mandat. Il a commandé les troupes américaines en Afghanistan.
Oui, bon, voilà. Ça n'a pas été...
Ah, ça n'a pas été... Hein? Lui a réussi à, au final. Ça n'a pas été une réussite.
Ils ne se sont pas montrés à la hauteur. Hein,
mais il y a aussi... Il y a aussi une manière de se mettre dans des situations où, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière de s'en sortir.
Voilà.
C'est un bourbier tel, il a fait ce qu'il pouvait. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ce que dit le général Mattis, je le cite. « En lisant, on apprend à travers les expériences des autres. Grâce à ma lecture, je n'ai jamais été pris de court par aucune situation. Jamais, sans savoir comment, un problème avait déjà été abordé en bien ou en mal, auparavant. Ça ne me donne pas toutes les réponses, mais c'est une lumière dans un chemin qui est souvent sombre. » Voilà, c'est un point que je développe dans ce petit
Donc profiter
opuscule.
De l'expérience des prédécesseurs.
Profiter de l'expérience des autres. Avec, il n'existe qu'une seule nature humaine, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà.
Mais alors Jean-Pierre, j'en reviens à vos lectures de mystique. Ça peut être très mauvais de lire de mauvais livres. Vous citez, je crois, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue, dont le héros, Augustin, perd la foi en lisant de mauvais livres quand il est à l'école normale.
C'est pour ça que quand l'Église enseignait encore, il existait ce qu'on appelait un index. Index Librorum, voilà, des livres qui étaient proscrits. Partant du principe, là aussi c'est une des caractéristiques majeures de l'Église qu'il est commode, mais pas totalement faux, même si c'est pas complètement vrai, de qualifier de conciliaire, c'est cette suppression de l'index par le pape Paul VI, c'est en fait une méconnaissance de la nature humaine, et je pense que sur le fond, et c'est un des drames, me semble-t-il, de l'Église moderne dans laquelle nous vivons, c'est la négation pratique du péché originel. Voilà. C'est-à-dire que dans ces livres, les livres qui étaient condamnés, c'était des livres qui étaient contre la foi ou contre la morale. Voilà.
Attention Jean-Pierre, attention. Vous, dans les ouvrages que vous recommandez, donc vous recommandez la lecture, vous mettez Balzac.
Alors je mets
Balzac. Et il me semble bien que la plupart des ouvrages de Balzac étaient à l'index.
Ouais, alors j'en mets un autre aussi qui, à mon avis, a encore plus de raisons d'être à l'index, c'est Proust.
Oui, c'est vrai. Dont vous dites grand bien.
Proust et même un autre aussi, parce que voilà, mais c'est d'un amoralisme total, mais c'est quand même super bien écrit. Et il y a des choses tout à fait intéressantes, je pense à Les dieux ont soif. C'est Anatole France.
C'est Anatole France, oui, bien sûr. Voilà. Une langue d'une pureté. Oui.
Alors, le.
Il faut dire, les dieux ont soif, on peut le recommander quand
les
même.
Les dieux ont soif, c'est
parce
excellent.
Parce que là, fond et forme, ouais. C'est excellent, oui.
Mais alors aussi, avec beaucoup, alors c'est le. Alors, les dieux ont soif pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas peut-être de quoi il est question, c'est sous la Révolution française. Bon, et en fait, dans cet ouvrage, Anatole France montre la folie de la terreur.
Exactement.
Voilà, et on est vraiment dans ça. Alors voilà, donc ça, on peut offrir ça, il a sûrement lu à Jean-Luc Mélenchon, ça, voilà.
Et oui, parce que M. Mélenchon est cultivé en plus. Hein. Alors, vous voyez dans l'abandon de la culture générale le refus de discrimination réputée reposer sur des critères sociaux.
Oui.
Bon. Or, c'est idiot ce refus de la discrimination, puisque au début du XXe, un enfant intelligent d'un milieu simple pouvait accéder à un normal sup, hein, s'il
oui.
était intelligent.
Ben, on en a des
on
exemples.
Le poussait, etc. Bon.
Pompidou.
Voilà. Mais moi, je pense plutôt, ou en tout cas aussi, que c'est parce que ça n'était pas considéré comme utile. On ne voyait que les choses utiles dans les années 60. Oui. Il fallait que ça serve dans la vie professionnelle et les lettres, les humanités ne servaient à rien. Mais ça,
voilà.
C'est un vieux débat. Léon Daudet a défendu les humanités.
Aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre de déclarations de nos ministres vont en ce sens. Les études, ça sert à trouver un travail. Mais non, mon ami, les études, ça ne sert pas à trouver un travail. Ça sert à pouvoir se forger une intelligence, se forger des convictions, pouvoir effectivement mener sa vie. Mais l'homme, sa seule vocation n'est pas de travailler. Et je pense qu'effectivement, dans les années 60, on a une alors sous l'emprise du marxisme, on a une réduction de l'homme à sa dimension ambivalente.
Ou alors,
l'homme
il faut
n'est
qu'il
plus
gagne
qu'un producteur et un consommateur.
Et il faut qu'il gagne de l'argent.
Voilà.
Si les études littéraires ne servent pas à gagner de l'argent, elles ne sont pas intéressantes.
Alors on a aussi, j'observe parce que c'est mon métier, dans la vie des entreprises, un peu un certain recul, une prise de conscience. Voilà. Pendant très longtemps, la mode, c'était de faire accéder au poste de direction générale les financiers.
Mmh.
Voilà. La priorité, c'était il faut gagner de l'argent, donc quelqu'un qui va vous expliquer les BIDDA, etc. Bien. Et j'observe dans un certain nombre d'entreprises où on dit voilà, bon, on a vu les limites du système, maintenant on veut des gens qui sachent prendre de la hauteur et qui en particulier sachent réfléchir à un certain nombre de sujets dans une forme de profondeur historique. Et cette profondeur historique, elle n'est donnée que par la culture générale.
Mais écoutez, j'espère que ce mouvement va se diffuser.
Eh bien, nous espérons, mais je vois ça. Et on recherche aujourd'hui, parfois, à des postes de responsabilité, des gens qui ne sont pas des spécialistes techniques, mais qui sont des gens, parce qu'ils ont une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, qui vont pouvoir s'entourer de spécialistes de manière à prendre les décisions. Voilà, le rôle du chef, ce n'est pas d'être un spécialiste. Le rôle du chef, c'est de s'entourer de spécialistes, de prendre de la hauteur de manière à prendre pour l'entreprise, pour le pays dont il a la charge, les bonnes décisions.
Jean-Pierre Mogen, nous allons laisser passer le Bobino.
Alors laissons passer.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors, Jean-Pierre Maugendre, nous en étions à l'utilité, l'utilité dans le sens le plus noble du terme, de la culture générale. Vous citez notamment le fait que beaucoup d'hommes politiques ou de décideurs n'ont plus de culture générale. Vous donnez comme exemple, d'ailleurs, celui de Bruno Le Maire, qui s'est fait fort d'analyser la situation de la Russie en disant que les sanctions allaient mettre en deux coups de cuillère à peau ce pays sur les genoux. Voilà, c'est un bon exemple. Il ne connaissait rien à l'histoire de la Russie.
Voilà, alors c'est le fait que, à croire que parce que le niveau de vie va baisser, ils ne vont plus avoir de pétrole, ça va mettre les Russes à genoux, c'est ne rien connaître à l'histoire de ce pays. Alors j'ai en mémoire une formule qui n'est pas dans ce petit livre, mais on ne peut pas penser à tous, et je ne sais plus quel auteur en disant à propos des classes qui nous dirigent, encore plus que leur corruption ne nous dégoûte, leur ignorance nous terrifie. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, Donald Trump sur les affaires en Iran, il est manifeste qu'il n'a aucun recul historique sur le sujet.
Sur quoi que ce soit, d'ailleurs, je pense.
Voilà, alors tout le monde dit autour de lui qu'il s'enorgueillit de ne rien lire, etc. Voilà. S'il croit qu'il va mettre à genoux ses 90 millions d'Iraniens en attendant qu'ils viennent lui baiser la main pour demander l'amant, le pardon, c'est ne rien connaître à l'histoire de ce pays. Ça ne se passera pas comme ça.
Donc vous parlez des hommes politiques ou des décideurs, mais moi je pense par exemple aussi aux médecins. Les médecins, dans les générations qui nous ont précédés, faisaient des études, connaissaient leurs humanités. Et c'est très important pour un médecin de connaître l'âme humaine, pas seulement le corps. Et les jeunes médecins maintenant.
Alors effectivement, j'évoque ça. Il y a un long développement sur le roman, puisque en fait là, on a quand même fait des choses un peu austères sur répondre aux grandes questions. D'une part, bénéficier de l'expérience des autres. D'autre part, mais je crois qu'il y a un développement aussi sur le roman qui nous fait découvrir les méandres de l'âme humaine.
Voilà.
Et vous parlez des médecins, il est bien évident qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que reprochent un certain nombre de médecins plus anciens aux médecins les plus jeunes, il n'y a pas entre le corps et l'âme la séparation totale que certains imaginent. Alors, en termes pompeux, on peut dire qu'à certain nombre de fois, on somatise, c'est-à-dire qu'en fait, des difficultés qui sont des difficultés psychologiques ont des conséquences physiques. Eh bien, le médecin qui n'est pas capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de son patient, les émotions, les passions qui peuvent l'animer, qui peuvent avoir des conséquences physiques, il est certain que l'on risque de passer à côté de pas mal de choses. La solution de facilité étant de donner des antidépresseurs dont la France est le premier consommateur au monde par habitant, alors que bien souvent le problème n'est pas là et la solution n'est pas là non plus.
Alors il y a une phrase qui m'a frappée de Jean-Paul II.
Oui.
L'homme vit d'une vie vraiment humaine grâce à la culture.
Oui.
Et une autre phrase m'a frappée aussi.
Ça doit être dans Mémoire et Identité, ça.
Celle de Basile de Césarée. Alors, ça n'est pas une... Oui, si, parce que vous expliquez qu'il dit à la nouvelle génération qu'elle doit savoir trouver dans la littérature antique, il vivait au IVe siècle, dans la littérature antique, ce qu'il y a d'utile à son édification. Donc, ces religieux ne méprisent pas tout ce qui est, justement, donc pour Jean-Paul II, les livres purement de culture... Et Basile de Césarée, les livres qui ont été écrits avant le Christ, alors, qui peuvent apprendre des choses.
C'est le texte de Basile de Césarée est souvent mis en avant. Je crois qu'il y a parfois un péril, un danger, sub specie boni, comme on dit, sous apparence de bien qui peut guetter un certain nombre de nos auditeurs, c'est de vouloir tout surnaturaliser. Or, il existe une nature humaine, il existe une raison humaine, là, puisqu'on est sur Jean-Paul II, je renvoie donc à l'encyclique Fides et Ratio. La foi et la raison sont liées, et enfin, non seulement, alors c'est l'image qui est employée de dire que ce sont les deux ailes qui nous permettent de monter vers Dieu, donc la foi et la raison. Et donc, il y a des gens qui, indépendamment de la foi, puisqu'on est avant la venue du Christ, et que la foi, en fait, elle n'est partagée que par le peuple juif qui attend le Messie. Les autres n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est pas du tout un reproche. Mais ils peuvent, par leur raison, avoir atteint des vérités rationnelles, des vérités raisonnables, qui ont encore toute leur pertinence aujourd'hui.
Alors, passons à un thème qui est très important. D'après vous, la lecture permet de résister à la pensée unique. Développez cette idée, Jean-Pierre Maugendre.
Alors, la pensée unique, je pense que c'est deux choses. C'est d'abord le règne de l'émotion. Voilà, c'est-à-dire le règne de l'émotion qui est facilité par l'image, qui est facilité par les chaînes d'infos en continu. Et qui conditionne les esprits pour participer des valeurs dominantes de la société contemporaine. Voilà. Aujourd'hui, si on revient sur cette histoire de la guerre en Iran, je crois d'abord qu'il y a un préalable que l'on doit pouvoir dire, c'est que dans le domaine de l'information, la neutralité n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que dans toutes les informations du jour, vous êtes bien obligé de faire un choix. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, dans tous les bombardements qui ont lieu dans cette région, selon que vous interviewez, c'est ce que j'entendais en venant tout à l'heure, voilà, un habitant qui est à côté de l'aéroport de Tel Aviv où il y a eu un mort. Ou que vous interviewez un Iranien, ou que vous interveniez un Sud-Libanais, tous sont dans des situations pas très agréables, on en est bien d'accord, mais vous allez devoir faire un choix. Et, et quand bien même vous ne feriez pas un choix, vous le feriez, si vous mettez tout ça sur le même plan, vous ferez quand même un choix. Je renvoie à un livre très intéressant sur ces questions de résistance à la pensée unique. C'est le livre de Vladimir Volkov qui s'appelle « Le montage ». Bon, et dans « Le montage », l'officier traitant, dont je ne me rappelle plus le nom, il donne 10 méthodes de désinformation. Et en particulier, il dit « les parts égales et les parts inégales ». C'est-à-dire que vous donnez le même temps de parole à quelqu'un dans un village où il y a eu un mort avec une roquette qui est tombée et il y a eu un mort. Vous donnez le même temps de parole à un village qui a été rasé, où il y a eu 300 morts, où il n'y a plus une maison sans dessus-dessous, et c'est de propos délibérés que tout a été rasé. Et puis vous donnez le même temps à un troisième témoin, où là, effectivement, c'était pas très prévu, c'est un dommage collatéral. Et donc, vous donnez le même temps de parole à tout le monde, alors que les situations sont radicalement différentes. C'est le choix que vous avez fait. Ce choix, il est fonction de votre prisme. Et ça, je crois qu'il n'y a que le recul. On a l'habitude de dire, d'employer cette formule. Plus on connaît, plus on est libre. Plus on connaît, plus on est libre. Plus on voit les conséquences des actes que l'on pose, plus intellectuellement, alors indépendamment des passions, de notre volonté, etc., qui peuvent jouer un rôle, mais plus on va faire un choix qui est libre. Bon. Et je crois que la lecture, en multipliant les références historiques, en multipliant les sources d'informations, nous permet de, d'avoir un jugement. Alors, en voyant que dans les jugements, il y a deux choses. Il y a les jugements qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Voilà, le choix que j'ai à faire dans ma commune, sur l'école, dans lequel sont mes enfants, etc. Ça, ça a un impact direct sur ma vie. Et puis après, il y a les propos du commerce, quoi, du café du commerce, quoi. Les discussions aujourd'hui sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en ce qui nous concerne, nous, c'est des propos de café du commerce, quoi. C'est, on peut rien y faire. Voilà. Et je crois que la lecture, elle donne, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette profondeur historique. Alors, je citais tout à l'heure là, plusieurs citations. Là, j'en ai une de Churchill. À celui qui lui demandait comment se préparer à jouer un rôle dans le monde, Kissinger, donc qui fut le secrétaire d'État des États-Unis pendant de nombreuses années, répondait avec les mots de Winston Churchill : étudiez l'histoire, étudiez l'histoire, étudiez l'histoire. Voilà.
C'est évident.
Et en ce sens, c'est une réponse à la pensée unique. Voilà, on peut penser aussi à un autre événement, alors là, qui nous concerne plus parce qu'il est plus contemporain, etc., suite à l'assassinat là, du pauvre Quentin Derenc, Jean-Luc Mélenchon qui joue les vierges effarouchées, mais non, mais la violente, non, ben, c'est un ancien militant trotskiste. La violence, elle est consubstantielle à ce qu'il est, elle est consubstantielle à son fonctionnement. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le député LFI du coin avait organisé une manifestation à Arras en hommage à Robespierre, puisque Robespierre est d'Arras, et que le grand lycée d'Arras s'appelle le lycée Robespierre. Mmh. Alors, faudra encore, d'ailleurs, essayer de m'expliquer comment on peut être contre le terrorisme quand on éduque un certain nombre de générations d'élèves en leur donnant comme modèle Robespierre. Mmh. Voilà. Et je pense qu'un certain nombre des étudiants ou des lycéens du lycée Robespierre à Arras, s'ils se mettent à massacrer des gens, ils ne feront que suivre l'exemple de Robespierre.
Alors Jean-Pierre Mogent, nous sommes en train de parler de la lecture en question, votre dernier petit ouvrage paru aux éditions Via Romana. Quels sont les obstacles à la lecture ?
Alors les obstacles à la lecture, j'en ai identifié plusieurs. Le premier obstacle, ça paraît tout bête, mais c'est évident, c'est les difficultés à la lecture. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du mal à lire... je rappelle quand même que au niveau de la sixième, on doit avoir 20% des élèves qui maîtrisent pas parfaitement la lecture. Si vous avez du mal à lire, si vous avez du mal à déchiffrer un texte, si vous manquez d'aisance dans la lecture, ben
vous
c'est sûr que c'est un obstacle.
Plaisir, bien sûr.
C'est-à-dire que si ça vous coûte, ça va être compliqué. Le deuxième obstacle que l'on identifie, c'est le manque de goût. Alors, le manque de goût, c'est comme ça rejoint un peu les questions d'éducation. C'est-à-dire que soit... Alors, oui et non. Parce que si je regarde mes enfants, mes six enfants, ils ont tous été élevés a priori pareil. Ils ont tous vu leur papa et leur maman lire. Il y en a qui lisent beaucoup, puis il y en a qui lisent moins. Donc, il y a la question... Il y a la nature de chacun. Crois que c'est... Alors, il y en a pour qui ça ne coûte rien, et puis il y en a pour qui ça coûte. Voilà. Mais il y en a comme se lever le matin. Il y en a à qui ça ne coûte rien, et puis il y en a à qui ça coûte. N'empêche qu'il faut que tout le monde se lève. Voilà.
Mais ce qu'on doit vous répondre aussi, parce que ça, c'est classique, combien de fois ne l'ai-je pas entendu ? Je n'ai pas le temps.
Alors, effectivement, c'est l'objection suivante.
Et ça, je n'y crois pas.
Alors, le manque de temps, deux réflexions. La première, le temps, c'est les choix que nous faisons. C'est-à-dire que les journées, elles font... Alors, il y a des gens qui ont plus besoin de dormir que d'autres, mais nos journées, voilà, il y a 12 heures, 14 heures, peut-être 16 heures. Là, ça commence, voilà, mettons 16 heures, 8 heures de sommeil, ça va, 16 et 8, 24. Il y a des gens, ils peuvent monter à 20, hein, il suffit de 4 ou 5 heures pour dormir. Bon, alors que faisons-nous de ces heures? Voilà, c'est ça la vraie question, c'est que faisons-nous de ces heures? Alors en voyant que la vie moderne aussi, bien souvent, nous fait passer professionnellement plus de temps dans les transports qu'autrefois.
Mais voilà. Justement, lisons dans les transports.
Alors lisons dans les transports, pas si vous êtes en voiture.
Ah oui.
Si vous êtes en train,
mais vous pouvez au moins écouter Radio Courtoisie.
Voilà, vous pouvez écouter Radio Courtoisie, mais ça, ça ne fera pas de la lecture. Alors le manque de temps, c'est une vraie question. Alors après la question que l'on doit se poser, c'est que faisons-nous de notre temps? Au début de ce petit opuscule, je dis qu'en fait, les gens consacrent à la lecture par jour autant de temps qu'ils consacrent... aux réseaux sociaux par jour autant de temps qu'ils consacrent par semaine à la lecture. Donc on est dans un ratio de 1 à 7, hein, globalement. Bon, ben ça, c'est le choix de chacun. Voilà, vous êtes dans une station de métro ou dans un train, 95% des gens, alors lisent, mais lisent sur leur portable. C'est-à-dire
lisent,
en fait.
Lisent ou regardent.
Ou regardent des
vidéos. Ou alors appuient sur des petits machins qui montent et qui descendent, là, des jeux.
Oui, alors il y a ça aussi. Alors, la seule solution, alors je donne l'exemple du prince de Metternich. Le prince de Metternich, donc...
À ne pas suivre dans tous ses domaines.
Alors, à ne pas suivre dans tous les domaines, parce qu'il avait une vie, alors je ne sais pas si on appelle conjugale, familiale, enfin très, très animée. Mais il disait, j'ai la mauvaise habitude... Alors, il est premier ministre de l'Autriche, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. J'ai la mauvaise habitude de ne jamais m'endormir sans avoir lu une heure ou une demi-heure. Voilà. Il s'était fixé une règle de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, la règle de vie pour tenir dans ce monde dans lequel nous vivons, elle est nécessaire. Alors, le conseil que je donne, que j'essaye d'appliquer, je respecte plus ou moins, etc. Voilà, c'est pas d'écran après le dîner. Alors, en voyant, là aussi, parce qu'on m'en a fait la remarque quand j'ai dit ça, je mets à part, évidemment, les gens qui vivent seuls. C'est-à-dire, quand vous êtes seul, je comprends, mais si vous avez une vie familiale, une vie communautaire, pas d'écran après le dîner. Alors, vous lisez, vous partagez, vous faites un Scrabble, voilà. Mais s'imposer une règle de vie. D'ailleurs, dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, je pense que ne pas s'imposer une règle de vie, c'est la feuille morte qui est emportée par le vent. C'est-à-dire qu'on est incapable de se fixer, de hiérarchiser également l'ensemble de ses responsabilités, de ses devoirs, et de faire ce qui doit être fait.
Un obstacle aussi, moi, que l'on me donne parfois, c'est le manque de place pour garder les livres. Ou les déménagements fréquents.
Oui, alors là, déjà...
Alors, il faut aller en bibliothèque.
Non, alors vous pouvez aller en bibliothèque. Et puis là, c'est déjà quand même des gens qui ont l'habitude de la lecture, parce qu'avant d'être submergé ou alors... mais effectivement, à Paris, il y a aussi des petits appartements.
Des petits appartements.
Alors, les bibliothèques sont faites pour ça.
Voilà, bibliothèque municipale.
Les bibliothèques sont faites pour ça.
Voilà, oui.
Voilà. Vous pouvez...
Il faut avoir le temps d'y aller aussi. Si vous avez des journées de travail...
C'est vrai.
C'est pas toujours facile.
C'est vrai.
Et on n'y pense pas beaucoup. On n'y pense pas forcément. Alors qu'il y a des richesses très grandes dans les bibliothèques.
Oui. Alors là aussi, hein, c'est... Alors j'ai coutume de dire, pour réussir dans la vie, il y a deux méthodes. Il faut être soit génial, soit organisé. Voilà, on ne choisit pas d'être génial, on peut choisir d'être organisé. Voilà.
Alors, Jean-Pierre Maugendre, comment lire? Il suffit de parcourir à toute vitesse le livre ou bien vous donner d'autres conseils?
Alors, comment lire? 2-3 points. L'abbé Berthaud, que je cite au début de ce paragraphe, il nous dit « Il faut lire avec l'intention de tout retenir par cœur ». Bon, il est bien évident qu'on ne le fait pas. En revanche, il me semble qu'il y a quelque chose qui est plus à portée de main. Et là, vous voyez, mais vous l'avez déjà vu, l'éclectisme de nos lectures. Je vais citer Voltaire. Voltaire, donc cette abominable bête de Voltaire. Voltaire dit « Celui qui ne lit pas un crayon à la main dort ». Voilà, celui qui ne lit pas un crayon à la main dort. Voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut écrire sur le livre ?
Alors, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'écris. Je sais que ça détériore le livre, mais moi, je ne fais pas de l'outil, du livre un outil de collection. Je fais du livre un outil de travail.
Mais alors, vous écrivez carrément dans la page que vous êtes en train de lire ?
Non, je fais deux choses.
À la fin. Moi, j'écris voilà. À la alors, fin. Je prends des notes à la fin.
Dans le livre, je note ce qui est intéressant. Et à la fin, je note par page
voilà.
Les centres d'intérêt à côté. Et puis après, ce que je fais toujours, sur une autre page, je note les éléments de synthèse. C'est-à-dire, puisque généralement, sur le site de Renaissance Catholique, je mets régulièrement des recensions des livres que je lis. Voilà, qu'est-ce qui m'a frappé ? Et donc, il y a trois choses. Il y a ce que je souligne
marque,
dans le
voilà.
Livre. Page par page, ce qui est intéressant, ce que je vais retrouver, et puis les éléments de synthèse qui vont me servir
pour
à faire la petite
de
fiche de lecture que je fais toujours depuis, j'ose pas dire, depuis 50 ans, tous les livres que je lis, je fais une petite fiche.
Bravo Jean-Pierre. Alors maintenant, le temps passe, mais il nous reste 6 minutes. Que lire ? Et là, vous citez le Père Sertilange.
Voilà, alors le Père Sertilange est un dominicain du début du XXe siècle, c'est la guerre de 14, et il a écrit un livre qui s'appelle « La vie intellectuelle ». Et dans cet ouvrage « La vie intellectuelle », il dit qu'il existe quatre types de lectures. Les lectures de fond, voilà, les lectures de fond, il nous dit « c'est là où brillent les idées maîtresses ». C'est là où sont exposées les vérités de base de la foi. Donc lui, il cite saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, sainte Thérèse d'Avila, saint Ignace de Loyola, ça peut être les catéchismes. Voilà, là, ça c'est les lectures de fond. Ensuite, il définit ce qu'il appelle des lectures de travail. Les lectures de travail, c'est quoi ? C'est des lectures qui vont me permettre d'être fidèle aux différents états de ma vie, c'est-à-dire de me comporter... comme Marie.
Ça, c'est intéressant parce qu'on pense toujours, quand on dit devoir d'État.
Mais on pense qu'au travail.
Exactement. Exactement.
Alors que nos états de vie, c'est mon état de Marie, de père, de fils, de chef d'entreprise, de salarié, de citoyen,
de voisin.
De voisin. Voilà. Donc, tous ces états. Entraîne des obligations, voilà, le couple, autorité, responsabilité, voilà, bon. Eh bien, ces obligations, les fameuses lectures de travail, doivent me permettre de tenir ces obligations, c'est-à-dire de qu'est-ce que je dois faire comme père dans l'éducation de mes enfants, comme mari vis-à-vis de mon épouse, comme chef d'entreprise vis-à-vis de mes salariés. Voilà, deuxième catégorie de lecture, ce qu'il appelle les lectures de travail. Troisième catégorie de lecture, ce qu'il appelle les lectures d'entraînement ou d'édification. Voilà, ça c'est par nature très personnel, c'est les lectures voilà, qui me motivent, qui m'incitent à aller de l'avant, qui contribuent à mieux faire ce que je dois faire. Voilà, par nature, c'est très personnel. Voilà, moi, dans ces lectures, j'ai noté les livres de Jean Madiran, les livres du Père Calmel, les livres de Bernanos, voilà, les livres d'André Charlier. Voilà,
étant très sérieux, il n'y a pas beaucoup de trapelli là-dedans.
Alors, c'est la dernière. C'est la dernière, ce sont les lectures de détente, puisqu'on a le droit de se détendre, dans lesquelles tiennent une place importante les romans historiques, les ouvrages historiques, et puis les romans qui sont historiques ou qui ne le sont pas. Et là, je donne un certain nombre de pistes, alors d'écrivains, des romanciers contemporains, voilà. J'ai un faible pour un romancier canadien qui s'appelle Michael O'Brien, donc qui est l'auteur de Père Elijah à Jérusalem, et puis derrière, il a écrit une quinzaine de romans. Celui que je préfère, c'est Une île au cœur du monde. Voilà,
et vous citez aussi, ça m'a fait très plaisir, parce que c'est le livre de lui que je préfère, Le Raspail, l'anneau du pêcheur.
Voilà, alors l'anneau du pêcheur, c'est très beau. C'est très beau, mais parce que je crois que Raspail était comme ça aussi, c'est assez désespéré.
Oui. Mmh.
Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas désespéré, et c'est un romancier que je cite aussi, c'est Eugenio Corti.
Oui,
donc, Eugenio Corti,
le cheval
voilà,
rouge.
Donc, il est un romancier italien, donc Le Cheval Rouge. Et puis, d'autres livres aussi, parce qu'il a fait des livres aussi sous forme de scénarios de films. Voilà, il a fait un livre comme ça sur Les Révoltés du Bounty, L'Île Paradis. Il a fait un livre sur Caton l'Ancien.
Mais il a fait aussi, reprenant les thèmes un peu du Cheval Rouge, La Plupart ne reviendront pas.
Voilà.
Qui est magnifique.
Voilà.
C'est... Sur la guerre, sur les Italiens, sur le front
et
russe.
Alors là, on est dans l'ouvrage d'Eugenio Corti, on est vraiment, comme chez O'Brien, voilà, on est dans un roman imprégné de christianisme.
Ah,
ce
oui.
qui
ne
veut pas dire que c'est la prière 4 pages sur 5, mais on est imprégné dans un climat chrétien et il y a une espérance surnaturelle. Il y a les vertus chrétiennes, les vertus évangéliques, le pardon, le sens de la souffrance, que l'on ne trouve pas toujours dans tous les romans.
C'est une manière de... C'est très euphémisme. Hein.
C'est un vrai euphémisme.
Alors moi, je voudrais citer Léon Daudet, que j'aime beaucoup, et qui était aussi fanatique de lecture que d'écriture, ce qui n'est pas peu dire. Il disait « Pour lire assez, il faut lire trop
».
Jean-Pierre, merci beaucoup. Jean-Pierre Maugendre, nous avons donc parlé d'un superbe petit livre que je recommande à tous les auditeurs et surtout je recommande à tous les auditeurs de l'offrir à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs amis. La lecture en question aux éditions Via Romana. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci beaucoup Anne.
Vous venez d'entendre Voix au chapitre dirigée par Anne Lepape. Émission préenregistrée le 10 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 11 mars, de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.